Bien, alors l'énéagramme. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ne connaissent pas du tout l'énéagramme? Trois. C'est bien. Très peu. Ah. Très très peu. Alors, pour vous donner un tour d'horizon, puisque l'objet, c'est pas de, on ne va pas rentrer dans les trucs trop, trop précis, mais j'ai envie de vous donner quand même ce que c'est que un bon tour d'horizon sur l'énéagramme. Donc, dans un premier temps, vous dire peut-être quelques mots sur l'origine de cette approche. Ensuite, je vous montrerai comment on dessine l'énéagramme. On verra qu'il y a une logique dans le dessin. On parlera de la structure de l'énéagramme. Ensuite, je vous proposerai d'évoquer les thématiques qu'on trouve derrière chacun des profils. Avant d'entrer dans le profil, vous donner un petit peu ce qu'est l'essence de chacun des profils. On va avancer comme ça de façon circulaire, un peu comme en spirale. Alors, vous verrez comme ça, c'est une belle façon d'entrer facilement dans l'énéagramme. Ensuite, je vous donnerai les titres des différents profils, les noms qu'on utilise, bien que très vite, vous allez voir, on utilise plutôt des chiffres que les noms, puisque les noms sont un peu réducteurs. Et puis après, je vous parlerai, vous verrez, dans les symboles, il y a des droites qui circulent à l'intérieur, donc je vous montrerai un petit peu tout ça. Puis, s'il nous reste un peu de temps, il faut un peu de patience, je vous parlerai éventuellement des compléments d'énéagramme que je développe par ailleurs. Alors, énéagramme, on va définir ce mot peut-être. Ça vient de deux mots grecs, l'un qui veut dire aîné, neuf, vient du mot énéade, neuf, et gramme qui vient du mot grammos, qui veut dire point, simplement parce que c'est un modèle en neuf points. Alors, il semblerait que ce soit un des modèles les plus anciens qu'on connaisse qui décrivent la psyché humaine. Il semblerait que ça a plus de 5000 ans. Alors, on a du mal en fait à l'origine de savoir ce qui est vraiment l'énéagramme, ce qui n'en est pas, mais en tout cas la symbolique, on la retrouve, puis les traces que l'on est remontrées à plus de 5000 ans. Il y en a qui ont lu des ouvrages sur l'énéagramme? Oui, toi?
J'en ai acheté un, mais j'ai pas eu le temps de...
Je peux fouiller un petit peu dedans.
J'ai travaillé à deux, je crois.
D'accord.
Je n'ai pas poursuivi.
Il y en a beaucoup.
Oui. Alors, les souvenirs les plus précis que l'on ait, on sait, alors c'est là où on a des souvenirs à peu près précis, on sait que c'est dans l'islam, hein, qui est moins de 5000 ans, hein, moins de 5000 ans, mais c'est dans l'islam, qui est donc une des branches du soufisme, enfin c'est en soufisme, pardon, qui est une des branches de l'islam, qu'on retrouve l'énéagramme. On sait qu'il était utilisé dans le cadre de l'accompagnement psycho-spirituel des personnes. Voilà. Simplement, il y a eu peu d'écrits, parce que c'était beaucoup retransmis par voie orale. Hein. Alors, tout ça a évolué, on ne sait pas trop comment, on sait que c'est passé par l'Italie. Alain Carole, qui est mon collaborateur, là, lui a pas mal fait de recherches là-dessus, il saurait vous en dire beaucoup plus sur l'histoire de l'énéagramme. On sait que Gurdjieff l'a utilisé, il ne l'a pas enseigné, mais il l'utilisait. Gurdjieff, vous avez entendu parler, non? C'est un homme qui est un peu un chercheur de vérité, qui a écrit pas mal de bouquins, notamment... je ne sais plus, enfin, bon bref, qu'importe. Par contre, ce sont les jésuites sud-américains qui ont beaucoup écrit sur l'énéagramme. Hein, aidés de psychanalystes, mais sud-américains. Ben, il y a eu un énorme travail, ce qui fait qu'il y a un renouveau d'énéagramme qui apparaît dans les années 89-90 et qui vient des États-Unis. Bon, la première fois que j'ai entendu parler d'énéagramme, c'était par un chaman, un type qui, donc un soufi d'ailleurs, qui m'a parlé de ça, c'était en 88. Et puis j'avais laissé ça un peu dans les placards. Et un jour, en 93, en discutant avec Alain Guéroche, pourquoi on était chez lui, puis on s'y met, je ne sais pas pourquoi, à parler d'énéagramme. Lui, à l'époque, se formait aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il y a il y a eu des années, on a peut-être connu ça, toi, à l'époque, où on proposait des séminaires d'énéagramme.
Ouais. Ouais.
Alors aujourd'hui, on en propose encore. Mais on a eu monté une époque, une formation complète qui faisait 9 jours, 3 fois 3, sur l'énéagramme. Quand on est revenu, on s'est plutôt centré sur la PNL. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un complément extraordinaire. Et c'est pour ça que, un peu en filigrane comme ça, dans tous les séminaires, je propose des soirées sur l'énéagramme. Et on s'arrête rarement à une soirée. Ce qui fait que souvent, les gens, en arrivant, on l'a même intégré maintenant dans le maître praticien, pour le travail, pour aller plus loin sur l'identité. Et vraiment, je trouve que c'est super. Donc, je n'hésite pas à faire des sessions ou des soirées, en tout cas sur l'énéagramme. Ce qui n'empêche pas qu'on a des séminaires spécifiques sur l'énéagramme. Hein. On a un séminaire, on a trois niveaux, on fait trois fois deux jours. Donc, si ça vous intéresse, on pourra vous donner les dates. Alors, première chose, comment se dessine l'énéagramme? Alors, on présente ça sous la forme d'un cercle. dans lequel on va dessiner un triangle, hein, qui va subdiviser le cercle en trois parties. Bien. Donc on se retrouve trois points. Hein. Et ensuite, on va chacun de ces tiers va encore diviser en trois parties. Voilà. Et on a coutume de mettre le 1 ici, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Ça va ? Ensuite, et vous verrez ça sur les schémas qui représentent les diagrammes, vous verrez que le 4 est relié avec le 2, on verra pourquoi tout à l'heure, et avec le 1. Tout comme le 5 est relié avec le 7 et avec le 8. Ça va jusque-là ? Et ensuite, vous reliez le 1 avec le 7 et le 8 avec le 2. Tout ça a un sens et vous en saurez beaucoup plus à la fin de notre séance. Donc, ce qu'on va aborder, c'est les différentes typologies, les grandes neuf familles de typologies qu'on retrouve autour du cercle. D'accord ? Dans un deuxième temps, moi, je vous parlerai après des dynamiques qui sont internes, car le modèle de l'énéagramme, il y a un modèle à la fois structuré, donc c'est le côté un peu figé de l'énéagramme, hein, c'est la structure, et on verra que dedans, il y a une autre dimension qui est beaucoup plus dynamique. Alors, l'objectif de l'énéagramme, pourquoi l'énéagramme, à quoi ça sert ? L'objectif de l'énéagramme, à la différence de la PNL qui va plutôt proposer des processus d'accompagnement, l'énéagramme va apporter une carte qui va permettre de situer exactement comme un plan. Si vous êtes à Grenoble, vous montez à Paris, vous prenez un plan, vous allez identifier en fonction d'indicateurs où est-ce que vous êtes, vous savez que vous voulez aller à Paris, et là, la route, on va vous montrer par les indicateurs par où il faut passer. L'énéagramme, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a une carte qui représente un peu l'ensemble, enfin c'est d'ailleurs plus qu'à, c'est immense hein, ce qu'il y a dans l'énéagramme. Voilà, qui représente un peu la psyché humaine, et on verra qu'on a à la fois tout et en même temps surtout des parties. Et puis qu'en fonction des essences, des personnalités, eh bien on appartient plutôt à l'un ou à l'autre des groupes. D'accord. Alors, au début, il faut accepter d'entrer dans un système qui est un peu réducteur. Maintenant, je répète que tous les systèmes qui décrivent la psyché humaine ou la manière de fonctionner, toutes ces théories, on est bien sûr beaucoup plus complexes que toutes ces théories qui nous décrivent. D'accord ? Simplement, faut bien commencer par donner des grands repères. Donc au début, c'est un peu réducteur. Mais en fait, quand on rentre après dans l'énéagramme, on s'aperçoit que c'est immense. C'est immense. Il y a une mine d'informations. Je pense qu'aujourd'hui, on est loin d'avoir fait le tour de l'énéagramme. Alors bien sûr, on peut l'aborder sur un plan plutôt profil psychologique, c'est ce que nous verrons. Mais on verra aussi qu'il y a des lois mathématiques. On retrouve en fait toutes les lois de la nature dans l'énéagramme. C'est immense. C'est fabuleux. Au début, il faut rentrer dedans, mais plus vous rentrez dedans, vous y mettez le doigt et après... Au début, vous savez, c'est un peu comme ces images à deux dimensions. Vous regardez d'une dernière... Hein, vous les regardez, puis au bout d'un moment, vous voyez apparaître une troisième dimension. Et bien, l'énéagramme, ça fait exactement la même chose. Quand on va rentrer dedans, tout d'un coup, vous accédez à un univers qui est tout à fait étonnant et fabuleux. Alors, premier tour, je vous propose... Vous évoquez les essences qui sont derrière. Je vais vous parler de ça parce que vous allez voir qu'après, très rapidement, vous allez comprendre ce qu'il y a derrière les profils. Hein, donc, je vais vous donner peu d'informations, mais c'est juste pour que vous sentez très vite en contact avec ces différentes typologies. Le 1. Ce qu'on va trouver derrière la notion du 1, derrière le profil 1, c'est la notion de structure, de loi. C'est un peu comme si, pour qu'une chose existe, il faut d'abord qu'il y ait une forme. D'accord ? Et donc derrière le 1, vous pouvez retenir cette idée de loi et de structure. Et je vous en dirai plus tout à l'heure. Ensuite, on a le 2. Si le 1 était la loi, dans le 2, on aurait le lien. C'est-à-dire, dans la dynamique 2, on va trouver tout ce qui est lié à l'échange, à la relation. Et autant dans le 1, on était dans la structure, ce qui est figé, ce qui... Voilà. Autant dans le 2, on va être dans la relation. Et vous allez voir que, tout à l'heure, on va développer ce profil... On va là un profil qui est très sensible à cette notion de relation, d'échange. Le 2. Ensuite, on a le 3. Derrière le 3, on va trouver la notion d'énergie. Et j'allais dire d'énergie individuelle, d'action individuelle. C'est un peu comme s'il y avait la loi, le lien, et des deux, se générer une troisième force. Et vous voyez, on est sur le premier angle du triangle. D'ailleurs, on verra symboliquement que le triangle, c'est l'énergie. Et en fait, dans le 3, on est dans l'énergie individuelle. Et on verra que les profils de type 3 sont des gens qui ont justement besoin d'action, de challenge, juste comme ça. Ce sont des... Ensuite, on a le 4. Le 4, c'est ce qui va découler de l'énergie 3. C'est-à-dire que fort de l'action que va enclencher le 3, il va y avoir une forme. C'est-à-dire qu'il y a une création qui va en découler. Et on verra que le 4 est beaucoup dans l'expression de la création. Dans l'expression, en fait, on le verra, de la sensibilité. Les 4 sont donc portés par l'expression de la sensibilité. Ça va jusque-là ? Et là, on arrive à la moitié de l'énéagramme. Il y en a qui connaissent les énergies type yin-yang. Là, on est dans une énergie type yang. Et ensuite, on va rentrer dans une énergie du type yin. Yang, parce que ça partait de l'intérieur vers le monde extérieur. Alors qu'ici, on va entrer plutôt dans de la réception. Et vous voyez, autant le 4 qui était dans l'énergie création, le 5, c'est comme si je m'arrête, d'un coup, et je rentre dans la conscience de ce qui a été créé. Et on verra que les 5 sont portés par ce besoin, cette notion d'observation, d'analyse, de compréhension des choses. Et les 5, on le verra dans leur profil, ont des facilités et des tendances à se mettre plutôt en observation. J'approfondirai toujours tout à l'heure. Ensuite, on arrive au 6, qui est à l'opposé du 3. Et dans le 6, on va retrouver cette énergie du 3, mais la différence, c'est que dans le 6, on est dans une énergie collective, de groupe. L'action du groupe. Et on verra que les 6 sont très portés par la notion de groupe. Puis enfin, on arrive au 7. C'est un symbole qui est fort, là, le 7. C'est le 7e jour où il s'arrêta et profita des choses. Eh bien, on verra d'ailleurs que dans le 7, il y a cette notion de profit. C'est le moment où je m'arrête et je rentre dans le profit des choses, dans le plaisir. Il y en a qui ont fait la gestalt parmi vous. La gestalt, qui est une autre approche qui n'a pas tellement de lien commun avec l'énagramme d'ailleurs, met en position 7, ce qu'on appelle la 7e étape du besoin, cette faction du besoin. Je pourrais faire une soirée là-dessus si ça vous intéresse. On décortique comme ça 7 étapes qui permettent d'aller à la 7e faction de besoin. Et justement, la dernière étape, c'est le plaisir. Curieux, pour faire bien, intéressant. Autre lien intéressant et étonnant, si par exemple, il y en a qui font de la comptabilité, les comptes qui commencent par 7 sont des comptes de profit. Curieux. Alors que les 6 sont des comptes de charge. Enfin bref, donc le 7 nous amène ensuite au 8. Donc ça veut dire, ce plaisir que j'ai de profiter des choses peut m'amener ensuite dans une conscience de ce qu'est ma force et mon pouvoir. Et on verra que le 8 est mobilisé par cette notion de force et de pouvoir, voire même de justice. Justice parce qu'il renvoie à sa loi intérieure. Au passage, c'est dans le rugby, le numéro 8, c'est ce qu'on appelle le pilier. Je peux dire, dans l'énagramme, le 8, c'est le vrai pilier. Hein, c'est le leader, c'est celui sur lequel on s'appuie. Là encore, il y a des liens et d'autres. Pourtant, là encore, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de liens entre l'histoire du rugby et celui de l'énagramme. Ah bon. 8. Et ensuite, on arrive au 9. Et le 9, c'est l'harmonisation de l'ensemble de ses forces. Et on verra que dans le 9, il y a cette notion, justement, d'action, mais dans le but d'unifier, d'harmoniser, de réunir. Ça va comme premier tour ? Alors, on va voir. On va approfondir ça. Je vais vous donner les termes que vous retrouverez le plus souvent. Bien que, je vous le répète, on a tendance plutôt à utiliser le chiffre pour éviter le côté réducteur du terme. Le 1, on les appelle les perfectionnistes. Vous verrez aussi quelquefois les réformistes, en fonction des ouvrages sur lesquels vous tombez. Perfectionnistes. Pourquoi, à votre avis ? Vous vous souvenez, le 1 ?
C'est la loi.
La loi, la structure, etc. Alors, on verra que c'est la loi et pas n'importe quelle loi. C'est surtout lié à la loi extérieure. Les 1 sont des gens qui ont le sentiment que tout est perfectible. Ils agissent pour améliorer le monde. Je caricature, bien sûr. Mais on change chez les 1 cette envie de prendre en charge les choses pour les améliorer. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont des perfectionnistes. Et en état de stress, car nous verrons à la fois le meilleur de chacun des profils et le moins bon, en état de stress, donc on va trouver des zones un peu de peur, et on va voir comment ils réagissent par rapport à ça. Il faut savoir que leur dimension, à eux, hein, leur particularité pour les uns, c'est l'envie de construire, de structurer, d'organiser à l'extérieur. Donc ils sont très soucieux de la loi, de ce qui a été, vous voyez, des valeurs, de ce qui a été appris, enfin, vous voyez, très soucieux de l'organisation, de l'ordre. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a bien sûr toujours des choses à faire. Et en plus de ça, ils ont du mal à déléguer.
Ah oui.
Parce que ça sera toujours mieux fait si c'est eux qui le font. Tu vois ? Donc ce sont des gens qui ont du mal à s'arrêter. Ils ont bossé toute la journée, ils rentrent. Et comme ils sont un peu... Voilà, pour se sentir bien, s'il vous plaît, il faut que les choses soient parfaites. Mais comme ils ont un niveau d'exigence qui est plus élevé que la moyenne, ils voient toujours le truc qui ne va pas. Ce qui fait qu'il y a deux verres qui n'ont pas été essuyés à la vaisselle, et ben il faut nettoyer le verre. Puis après, il y a trois poils de chien sur la moquette. Bon. Et c'est qu'après, quand tout est parfait, qu'ils peuvent se reposer. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Alors on verra qu'il y a différents niveaux. Hein. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans l'énéagramme, une fois qu'on a repéré un peu les grands profils, c'est qu'on a dans chacun des profils, bien sûr, un joyau. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon profil. Mais on décortique encore 9 niveaux. On parle de niveau intégré ou niveau désintégré. Désintégré, la personne est malade psychiquement, hein, elle est complètement en connexion avec ses peurs profondes. Alors qu'au niveau intégré, on dit qu'elle est libérée de sa peur. Au passage, par exemple, le 1 qui est libéré, c'est un 1 qui n'est plus dans le sentiment que pour exister, il a besoin d'être parfait. Mais ça, on va l'approfondir quand je vous parlerai juste après des peurs et des désirs et des peurs, hein, qui sont les deux choses qui nous mobilisent dans la vie. Ce qui viendra approfondir le truc. Ça va pour le perfectionniste ? Retenez le 1, côté structuré, organisation extérieure. Le 2, on appelle les dents. Les dents, du verbe aider. Pas les dents qui mordent, quoique, au bout d'un moment, il peut faire ça. Du verbe aider, les dents. Vous verrez aussi le... Oh, ça m'échappe. Enfin bon, les dents. Alors, ce n'est le 2, ce qu'il y avait derrière. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure ? La relation, l'échange. Les deux sont des gens qui aiment être en contact avec les autres. Ce qu'ils ont besoin, c'est que ça circule. Il faut qu'il y ait de la relation, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut que ça s'échange, vous voyez ? Ce qui fait que leur grand besoin, leur grand bonheur, c'est justement d'exister à travers l'autre, à travers cet échange-là. Alors, à votre avis, quel est le pire pour eux ? Voilà. C'est-à-dire, quand ils vont se sentir rejetés, c'est-à-dire que si la personne, par exemple, ne vient pas les voir ou ne les appelle pas, ils ont le sentiment d'être rejetés parce que eux, pour se sentir exister, il faut qu'ils se sentent en relation avec l'autre. Et donc, du coup, ils vont développer des talents dans ce domaine. Capacité, être à l'écoute des gens, s'occuper des gens, de les nourrir, etc. Mais quelquefois, ils vont le faire de façon excessive. Donc du coup, les gens ont envie de les fuir. Du coup, ils se sentiront mal. Enfin bon, on verra tout à l'heure, en termes de désir et de peur, ce qui se joue. Ah, mais retenez que les dents, hein, il est dans le bonheur, quelquefois il a envie de vivre à travers cet échange. Le 3, l'appelle le compétiteur. Vous verrez aussi le battant. Pourquoi compétiteur ?
L'action.
Ouais. Lui, il faut que ça bouge. Le pire pour un 3, c'est de lui dire « T'assois là et tu attends. » C'est le pire. Lui, il faut que ça bouge, il faut que ça remue, il faut qu'il y ait de l'énergie, il faut que... Voilà. Et donc, du coup, bien sûr, il se met là-dedans. Alors, quand il s'y met de façon excessive, son grand thème à lui, c'est le besoin de réussir. D'accord ? Mais pas de réussir, enfin de réussir à vos yeux. C'est-à-dire que il faut que ça se voit, il faut que ça en jette, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait de l'énergie, il faut que ça brille, il faut que... Ça, c'est le 3. Au fond, j'existe parce que je réussis. Hein, ici, c'est j'aide, donc je suis. Là, je réussis, donc je suis. Là, c'est je suis parfait, donc je suis. Vous avez compris le truc. Donc, les 3, compétiteurs. 4, artistes. Alors, artiste, vous verrez, mais un autre terme, je m'amuse beaucoup, je trouve assez juste, tragico-romantique. Artiste. Hein ? Le 2, ça me revient, c'est l'hédoniste. Alors pour l'artiste, le 4, souvenez ce besoin d'exprimer à l'extérieur. Les 4 ont un peu le sentiment quelquefois d'arriver d'une autre planète. Ils se sentent souvent très différents des autres. Et leur grand bonheur, c'est justement de pouvoir être reconnus à travers leurs différences, qui s'expriment bien sûr à travers leur sensibilité. Et c'est ce souhait de pouvoir communiquer au monde ce qu'ils sont à l'intérieur, c'est ça leur grande quête. Mais comme ils ont énormément de sensibilité, ils s'y perdent dans cette sensibilité, quelquefois. Donc les 4 sont très portés par cette notion de sensation, d'intuition, de créativité. Ouais, j'adore ça, les 4. Les 5, on appelle les penseurs. Vous avez compris pourquoi ?
Observateur,
logique. Donc les 5 sont plutôt dans le cerveau gauche, logique, rationnel, analyse, observation, approfondissement, etc. 6, loyaliste. Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi le 6 on l'appelle loyaliste ? Oui. Alors loyal, en fait, envers la loi du groupe. Car le groupe est pour lui le moyen de survie. C'est-à-dire que pour exister, il a besoin, c'est pour ça qu'il sera loyal, du groupe. Et pour que le groupe soit préservé, il y a donc besoin de la loi du groupe. C'est pour ça que ce sont des gens, des loyalistes souvent, qui bien sûr, comme leur nom l'indique, ont beaucoup de loyauté, et souvent vivent avec un système de valeurs assez fort. Donc les 6 sont des gens qui ont besoin d'appartenir comme ça, alors soit un groupe, soit un mode de pensée, soit... Voilà. Retenez que le 6 a vraiment besoin d'agir avec les autres, d'être en lien avec les autres. Notion d'affiliation, d'appartenance, tout ça c'est très important pour un 6. Le 7, là vous en verrez une série aussi, vous avez l'épicurien, vous avez le jouisseur, vous avez... Le généraliste aussi. D'ailleurs, je vais utiliser celui-là. Je vais dire pourquoi. Le plaisir. Généraliste. Pourquoi ? Parce que les 7 sont, souvenez, dans le plaisir, justement, sont un peu comme des abeilles qui butinent un peu à droite à gauche. C'est-à-dire que les 7 ont besoin de profiter de la vie. Ce qui fait qu'ils profitent des choses, et puis quand ils en ont profité, ils passent à autre chose. Et du coup, ça fait des personnalités qui s'intéressent comme ça à beaucoup de choses. Ils aiment le plaisir, donc ils ont envie de vous en faire profiter. Et quand ils ont eu leur taf, ils passent à autre chose. Mais ce sont des gens qui aiment la vie. Ils vous invitent à dîner un soir, je veux dire, tout y est, le vin, enfin, tout y est, les bougies. Ils savent vous emmener dans cet environnement-là. Ah, donc ils sont souvent des bons vivants. La notion de plaisir est très très importante pour eux.
Généraliste, c'est le terme.
Alors, c'est un des termes qu'on va trouver. Parce que justement, par cette aspiration à prendre du plaisir, ils vont aller butiner un peu partout, comme ça. Et souvent, ce sont des gens qui, intellectuellement, ont d'ailleurs une connaissance sur pas mal de choses. Ils sont très curieux, très intéressés par tout ce qui est nouveau. Et c'est ce qui fait, comme ça, qu'ils vont un peu butiner sur plein de choses. Ils ont du mal aussi à rester longtemps dans une même dynamique. Ils ont un nouveau projet, ça les branche, hop. Et puis, une fois qu'ils ont fait le tour, paf, ils ont tendance à passer à autre chose. Des fois, on a du mal à les suivre, les 7, parce qu'ils partent à droite, à gauche. Les 8. Leader. Donc les 8 sont, on l'a vu tout à l'heure, hein. Comme le nom. On verra aussi le chef, on verra ça comme terme. Le leader, les gens s'appuient dessus. Puis le 9, le médiateur.